Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, qu'est-ce que vous avez au menu ce matin?
Eh bien au menu, nous avons Netflix, le compagnon vidéo préféré des Français, BFM TV qui tape la cruste à l'Elysée, une chaîne de sport qui disparaît et le sport qui cartonne en Allemagne.
Mais on commence comme chaque jour avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télévision et même ce week-end?
Phénomène rare, hier soir, c'est France 2 qui est en tête des audiences, la prime au bon vin. France 2 diffusait hier le film de Cédric Lapiche, Ce qui nous lie,
incroyable,
qui se passe dans les vignes bourguignonnes. Et un peu plus de 4 millions de téléspectateurs étaient devant France 2 hier soir. Pio Marmaille a donc été plus fort que Will Smith, qui était lui sur TF1. Un peu moins de 3 800 000 personnes ont regardé After Earth, ce film post-apocalyptique. Et voilà que ce cher commissaire Dupin doit s'en contenter de la troisième place du podium. Il y avait un peu moins de 3 700 000 téléspectateurs devant France 3 hier soir. Et à noter le très bon score d'Arte grâce à l'homme qui en savait trop. Ce Alfred Hitchcock de 1956 a été regardé par près d'un 1 900 000 personnes.
Et Cyril, les audiences des soirées du week-end?
Pas de surprise pour vendredi, Koh-Lanta règne sans partage. Il y avait près de 6,5 millions de téléspectateurs devant TF1 pour suivre ce nouveau demi-épisode du jeu d'aventure. Cela représente 25,7% de part d'audience. Et comme la semaine dernière, France 3 écrase la concurrence samedi soir. Son téléfilm « Crime dans l'Hérault » a lui rassemblé 6,5 millions de Français, soit presque 29% de part d'audience. A noter samedi le très mauvais score de la soirée Eurovision sur France 2. Moins d'1,2 million de téléspectateurs ont suivi cette émission à rallonge jusqu'à 1h du matin. Et le score même sur la première partie n'est pas plus flatteur puisque France 2 ne gagne que 100 000 téléspectateurs de moyenne. Décidément, une année manquée pour l'Eurovision. Rendez-vous compte, l'an dernier, le concours avait été regardé par près de 4 800 000 téléspectateurs sur France 2. C'est donc quasiment, c'est plus de 3 millions de plus hein, pour, par rapport à 3 millions pardon, de téléspectateurs perdus par rapport à l'année dernière. Enfin, sachez que s'il n'y a pas eu de concours officiel cette année, les fans se sont organisés le leur et selon l'Organisation Générale des Amateurs de l'Eurovision, parce que ça existe. Tom Leb est arrivé 20e de la compétition virtuelle cette année. Aucun regret donc et rendez-vous l'année prochaine.
20e sur combien ?
Quarantaine.
Cyril, on commence maintenant ce journal des médias. Vous venez de nous donner les audiences du week-end depuis le début de la crise du coronavirus. On a souvent parlé ici des audiences des chaînes télé qui ont explosé. Et vous avez maintenant des chiffres sur la consommation des services de vidéo à la demande par abonnement.
Entre la première quinzaine du mois de mars et la première quinzaine du mois de mai, plus de 2 millions de personnes supplémentaires se sont mises à utiliser une offre comme Netflix, Disney+, ou Amazon Prime. C'est ce que nous apprend la deuxième vague du baromètre du CSA sur les effets de la crise du coronavirus sur les audiences et le marché publicitaire. En tout, nous sommes juste en dessous du seuil des 6 millions d'utilisateurs quotidiens, un seuil qui avait d'ailleurs été largement dépassé au cours du mois d'avril, justement au moment du lancement de Disney+ en France. Une chose intéressante dans ce baromètre, et toujours à propos de la vidéo à la demande par abonnement, c'est que les plus de 50 ans consomment à peu près autant ces nouvelles offres que les autres catégories d'âge. Je vous dis que c'est intéressant car lorsqu'on regarde les durées d'écoute de la télévision traditionnelle, les publics âgés dépassent largement tous les autres. Mais quand il s'agit de Netflix et des autres de ce genre, eh bien, on se rend compte que des ados de 15 ans aux grands-parents de 60 ans, on est à peu près toujours autour des 2h20 de consommation quotidienne. Comme quoi, il faut se méfier d'une idée reçue, ces nouveaux services de vidéo ne sont pas uniquement l'apanage des plus jeunes.
Et puis parmi ces services, Cyril, lesquels marchent le mieux ?
Là, forcément, ça ne sera une surprise pour personne. Netflix domine le marché de la tête et des épaules. Sa part de marché dépasse les 75% chez les 15-24 ans sur la période allant du 27 avril au 10 mai. Mais Netflix a perdu de son avance sur cette cible. Lors de la première quinzaine de mars, sa part de marché dépassait les 90%. Alors peut-être qu'avec le confinement, les utilisateurs ont épuisé le catalogue de Netflix. Quoi qu'il en soit, la domination du leader américain vaut pour toutes les autres catégories d'âge. Mais, attention, chez les plus de 50 ans, Canal+ garde encore une place à part. La part de marché de MyCanal et de Canal+ série dépasse aujourd'hui les 27% sur cette tranche d'âge. C'est deux fois moins que Netflix, mais très très largement devant tous les autres services.
Cyril, on arrive à la TNT. Ce soir, BFM TV s'incruste à l'Elysée.
Oui, la chaîne Info annonce un long format exceptionnel. Et c'est vrai que le le programme est alléchant. BFM a pu s'installer dans le palais de l'Élysée durant la crise du coronavirus et rencontrer Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs le premier entretien qu'il accorde à une chaîne de télé depuis le début de la crise sanitaire. Nous avons demandé à la journaliste Pauline Revenaz, qui a réalisé ce long format, de nous raconter comment elle avait réussi à se faire accepter dans ce lieu de pouvoir où les caméras sont rares.
Ça s'est fait progressivement. On a commencé au début un peu sur la pointe des pieds et puis on a réussi à se faire accepter. Ça n'a pas été facile. Et petit à petit, c'est un travail de fourmi en fait, un petit travail en pointillé. On a eu accès quand même pendant 2 mois à plusieurs dizaines de rendez-vous, de réunions. Vous verrez par exemple, c'est la première fois que ça se passait, donc c'est la première fois que vous allez le découvrir, le G7 qui s'est tenu pour la première fois en visioconférence. Pourquoi l'a-t-il accepté? Je ne le sais pas, mais en tout cas, nous, on a pu faire les petites souris et surtout essayer de faire vivre le plus les coulisses de ce temps historique. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre comment le président, à l'intérieur de ce palais, gérait cette crise, en tout cas ce moment un peu suspendu, ces 55 jours de confinement, c'était notre espace-temps.
55 jours de confinement au plus près du président de la République, mais dans un palais qui doit lui aussi s'adapter à la distanciation sociale. Écoutez cet extrait.
À quoi ressemble le quotidien du président dans un Élysée confiné? Le bâtiment a pris des allures de palais fantôme. Sur les 800 personnes qui y travaillent habituellement, 200 sont encore présentes.
On dit que l'Élysée isole, mais l'Élysée en confinement, ça doit être très particulier. Est-ce que ça coupe encore un peu plus des Français? Comment est-ce que vous avez vécu dans ce palais un peu dépeuplé quand même?
Écoutez, d'abord, avec une organisation qui est celle que tous les services de l'État, les entreprises ont eu quand elles ont a fonctionné durant cette crise, c'est-à-dire avec des plans de continuité d'activité, comme on dit, où on réduit les effectifs au maximum et où tout le monde travaille à distance. Quand nous vivons tous ensemble un tel moment, on le vit au pays et au cœur de celui-ci. Donc je ne me suis pas senti isolé.
Et si Emmanuel Macron ne s'est pas senti isolé, la journaliste Pauline Revenaz nous explique comment s'est adapté l'Élysée à ces circonstances inédites.
Ce qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, le palais de l'Élysée s'est mis un peu au diapason du pays. Techniquement, par exemple, ils ont réaménagé des salles. Donc il y a le salon Murat, qui est normalement le salon qui accueille le Conseil des ministres, qui a été complètement recablé, installé en visioconférence. Et c'est là que se passe l'essentiel du travail. En fait, toutes les décisions importantes se prennent dans cette salle. On appelle ça maintenant la salle Covid. Et du coup, c'est un peu à l'image du pays, c'est-à-dire que tout le monde s'est adapté. 3/4 des personnes de l'Élysée sont en télétravail. Il y a des visioconférences partout. Donc en fait, c'est un peu ce que nous, on a vécu à l'extérieur, mais dans une ambiance quand même extrêmement particulière et une ambiance de gravité, parce qu'effectivement, les décisions qui sont prises sont à la hauteur des enjeux. On a interrogé le président de la République sur ses prises de décision. Comment est-ce qu'il décide? Comment il fait pour décider? Et à quel moment il y a le déclic et comment ça se passe dans sa tête?
Au cœur de l'Élysée, face à la crise, c'est un long format de Pauline Revenaz, Baptiste Caïta, Régis Desconclois et Alexandre Funel. Et c'est ce soir à 20h50 sur BFM TV.
Et puis, la disparition d'une chaîne, Cyril.
RMC Sport News va cesser son activité à compter du 2 juin. C'est une chaîne qui avait été lancée il y a 4 ans au moment de l'Euro 2016 en France. Et de fait, elle ne diffusait plus rien depuis le début de la crise sanitaire. L'arrêt de cette chaîne marque aussi la fin d'un chapitre pour le groupe Altice qui détient RMC et BFM. Le groupe a perdu des droits importants, dont la Ligue des Champions, que RMC Sport pourra quand même encore diffuser une dernière saison.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Culture Média continue. Dans un instant, ce sera notre info média du jour. On va parler du journalisme de solution. C'est quoi? Réponse avec Pauline Amiel. Elle est maître de conférence à l'école de journalisme de communication d'Aix-Marseille et auteur du livre Journalisme de solution. Pardon.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Question, le coronavirus va-t-il permettre l'émergence d'un autre journalisme baptisé le journalisme de solution, Sojo pour les intimes et les Américains? Même si c'est bien connu, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, alors que les médias font la part belle aux mauvaises nouvelles et aux drames. Y a-t-il une place pour un journalisme des bonnes nouvelles et des solutions? Pour en parler, nous sommes avec Pauline Amiel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'école du journalisme et de communication d'Aix-Marseille Université et auteur du livre « Journalisme de solution » paru au PUG, les presses universitaires de Grenoble. Alors d'abord, la définition, c'est quoi le journalisme de solution s'il fallait définir le concept en quelques mots?
En quelques mots, on peut dire que le journaliste de solution, c'est une méthode professionnelle créée par des journalistes pour traiter l'information avec les outils de l'investigation. Mais la différence avec du journalisme classique, on va dire, c'est qu'en plus de présenter les problèmes de société, les journalistes proposent des solutions pour essayer de résoudre ces problèmes.
Ça remonte à quand ce terme, journaliste de solution ou solution journalism en anglais, SOJO?
Le terme, on le retrouve pour la première fois aux États-Unis à la fin des années 90.
Ouais.
Et puis après, il s'est développé petit à petit au Danemark et en France autour de 2007. Et puis là, depuis quelques années, il prend quand même pas mal d'ampleur, en France en particulier, mais il est toujours assez développé aux États-Unis, en Angleterre, au Danemark et dans d'autres pays qu'on retrouve aussi en Afrique, en Inde. Ça prend d'ampleur un peu partout.
Alors ce qu'on découvre dans votre petit livre que je montre à l'image, si vous voulez nous voir, c'est sur europe1.fr. C'est un petit fascicule, enfin petit fascicule, il y a quand même 120 pages et c'est extrêmement documenté. Le premier média, écrivez-vous, à avoir fait du journalisme de solution en France, c'est Libé, Libération, avec un numéro spécial, le Libé des solutions en 2007. C'était quoi l'idée de base ?
L'idée de base, le Libé des solutions, a été créé par une agence qui s'appelle Reporters d'Espoir et Didier Pourquery, qui à l'époque était le rédacteur en chef de Libération, parce que Libération avait reçu des enquêtes de lecteurs.
Ouais.
Et les lecteurs étaient assez critiques envers Libération et le traitement de l'actualité qui est assez pessimiste, qui trouvait en tout cas assez pessimiste et trop noir. Et donc Reporters d'Espoir a proposé de travailler avec Libération pour faire un supplément tourner vers les solutions et montrer que le journalisme peut aussi présenter les problèmes de société, toujours de la même façon, mais en montrant aussi ce qui va bien et ce qui fonctionne.
Non, mais ce qui est encore plus intéressant que vous racontez dans votre livre avec un petit peu d'humour, c'est que pourquoi ils ont pris des pigistes ? Parce qu'à l'époque, c'était tellement pas dans la culture des journalistes de Libé qu'ils ne voulaient pas participer à ça. Pour eux, la vraie info, c'était l'info, le hard news pur et dur, donc de la mauvaise nouvelle.
Exactement. Il y a Didier Pourquery qui m'a expliqué ça, effectivement, que à l'époque, les journalistes de Libération n'avaient pas été intéressés pour faire ce supplément, et c'est pour ça qu'ils avaient travaillé avec Reporters d'Espoir.
Ouais.
Et que finalement, face à l'engouement, en fait, le Libé des solutions, cette année-là, était la meilleure vente de Libération. Les journalistes se sont petit à petit intéressés à cette nouvelle façon de travailler.
Ouais, j'ai noté les chiffres que vous donnez. Ce fut la meilleure vente de l'année de Libération en 2007. Le quotidien a vendu 145 000 exemplaires, soit 22% de plus que la diff moyenne cette année-là. Et là où c'est frappant, c'est qu'il n'y avait aucune promo. Ils l'ont fait presque en catimini et ça a cartonné. Donc ensuite, vous racontez que d'autres médias ont emboîté le pas. Lesquels ?
Alors ensuite, Rue 89 a fait un petit peu de journaliste de solution. Il y a eu aussi Reporters d'Espoir qui a créé un événement une fois par an qui s'appelle le Solution Journalism Day. Et plusieurs médias, une cinquantaine de médias en France, proposent ce jour-là du journalisme de solution. Beaucoup de médias de presse locale en particulier. Et puis aujourd'hui, il y a aussi des magazines qui se spécialisent dans le journalisme de solution. Un qui s'appelle Kaizen, qui est vraiment porté sur le journalisme de solution. Quelques médias locaux, toujours. Nice Matin en fait beaucoup.
Ah bon, ils font quoi Nice Matin par exemple ?
Nice Matin, ils ont créé en 2016 le Nice Matin des solutions. C'est un site internet qui est dédié aux solutions, au traitement de solutions de l'actualité locale.
Ouais.
Et c'est remarquable, ça fonctionne très bien d'après les chiffres que Nice Matin donne. Ils ont multiplié par 5 leur audience sur le journaliste de solution en 3 ans. Il y a une équipe dédiée qui, avec les lecteurs, fait voter les lecteurs pour choisir les thématiques qui sont traitées chaque mois par les journalistes. Et sur ces thématiques, ils proposent une trentaine d'articles, donc de traitements assez variés, sur une thématique, en montrant ce qui se passe ailleurs et comment on peut trouver des solutions à certaines difficultés. Donc par exemple, ils parlent du loup, le rapport entre loup et agriculture et territoire de montagne, qui est une question assez importante à Nice et dans les Alpes-Maritimes. Mais aussi, ils ont parlé, évidemment, ils ont fait un dossier sur le Covid et le confinement, un autre sur les quartiers, comment désenclaver les quartiers, par exemple. Il y a des thématiques très variées.
Voilà, et nous aussi, on a une émission de journaliste de solution qui est La France Bouge, présentée par Raphaël Duchemin.
Exactement.
C'est tous les jours sur Europe 1 et c'est pas la première année.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Pauline Amiel, qui vient de publier aux presses universitaires de Grenoble les PUG pour les intimes, le journalisme de solution. Jamais les Français n'ont autant consommé d'infos, on l'a vu dans le journal des médias de Cyril Lacarrière. Jamais pourtant ils n'ont eu aussi peu confiance envers les médias. C'est un chiffre terrifiant donné dans Le Parisien, c'était le 10 mai dernier. La confiance envers les médias est actuellement au plus bas. 30% seulement des personnes interrogées, c'est même pas un tiers, leur font confiance. C'est l'avant-dernière place, juste avant les réseaux sociaux, encore plus bas, 16%, et juste derrière le gouvernement, 33%. Est-ce que le journalisme de solution peut être, selon vous, une réponse à cette défiance envers les médias, Pauline Amiel ?
C'est tout l'objectif du journaliste de solution. Il a été créé donc dans les années 90. Il est parti du constat que justement il y avait une défiance très forte du public envers les médias. Et du coup, des journalistes ont voulu créer cette nouvelle méthode pour redonner confiance envers les médias et proposer de recréer du lien en fait avec le public. Et c'est vraiment l'objectif que se fixe le journaliste de solution, créer du lien avec le public et redonner confiance dans les médias.
Parce que ce que vous dites, c'est qu'en fait, les journalistes, de la manière dont c'est perçu par le public, s'intéressent seulement aux informations négatives. Or, pourtant, le monde a changé en bien. Il y a un chercheur suédois qui montre que l'écart entre la réalité et la perception négative du monde que l'on a empire chez les journalistes. Ça ne part pas non plus d'un constat imbécile ou irénique. C'est vraiment, il y a une volonté de voir le réel tel qu'il est.
Exactement. C'est ce chercheur suédois, il y a toute une équipe en Suède qui a créé le Gapminder. C'est un test que tout le monde peut faire en ligne et qui permet de vérifier l'écart qu'il y a entre notre représentation du monde et les chiffres en fait des organismes internationaux officiels sur l'évolution du monde, de l'humanité. Et en fait, c'est impressionnant de voir que l'écart le plus éloigné finalement, c'est celui des journalistes. Ouais. Les journalistes perçoivent le monde de façon avec un prisme très négatif. Et donc il y a des spécialistes du journalisme de solution qui disent que le journalisme de solution, en fait, c'est du journalisme à deux yeux. Un porté effectivement sur les événements négatifs, mais aussi un œil porté sur le positif et sur ce qui va bien, sur ce qui va dans le bon sens.
Exactement, si on regarde l'histoire de l'humanité, jamais il y a eu moins de pauvreté qu'aujourd'hui. Il y en a beaucoup trop, mais la situation n'a jamais été aussi moins mauvaise, si je puis me permettre.
Exactement.
Et c'est aussi la perception qu'ont les gens de banlieue de la manière dont ils perçoivent, la manière dont on montre l'endroit dans lequel ils vivent. Alors il y a quand même des critiques, il y a certains qui reprochent au journalisme de solution d'être un journalisme, je vous cite, de bisounours, militant, ou alors faire de la publicité déguisée, parce que la solution est parfois apportée par une entreprise. Comment faire justement pour que ça ne devienne pas du militantisme ou du marketing ?
Alors justement, il y a beaucoup de critiques effectivement envers le journaliste de solution, et pour les éviter et ne pas tomber finalement dans le fait de faire de la publicité ou d'être un petit peu trop bienveillant, bisounours, c'est le terme que vous avez repris, il faut être très rigoureux, et c'est une technique du coup le journaliste de solution qui peut paraître parfois ardue parce qu'elle demande du temps et vraiment elle se base sur les outils de l'investigation.
Pourquoi par exemple expliquer ?
Comment ça ?
Pourquoi c'est ardu de donner des bonnes nouvelles ? Pourquoi ça serait plus ardu que de donner des mauvaises nouvelles ?
Parce que justement, les journalistes de solution essaient de ne pas faire le plaidoyer de certaines bonnes nouvelles. Donc, il faut à la fois trouver une bonne solution, enquêter pour voir si elle fonctionne bien, et aussi essayer de démontrer pourquoi elle pourrait fonctionner dans d'autres situations. C'est ça qui n'est pas évident.
Est-ce que, pour que les journalistes diffusent aussi bien les bonnes nouvelles, il ne faut pas changer les mentalités et changer leur formation ? Et vous voyez venir ma question, c'est que vous êtes professeur à l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille Université. Qu'est-ce que vous leur enseignez à ce sujet, Pauline Amiel ?
Alors, effectivement, les écoles de journalisme s'intéressent également de plus en plus aux journalistes de solution. Il y a plusieurs grandes écoles, notamment l'école de Lille, qui propose du journalisme de solution. Et c'est vrai que à l'UJICAM, j'essaie également de parler à mes étudiants du journalisme de solution pour leur ouvrir un champ des possibles, en fait, et leur montrer qu'il n'y a pas une seule façon de faire de l'information, mais plusieurs façons multiples et qu'il
et
ne faut pas négliger.
Et ça prend, oui, est-ce qu'ils sont inféodés à la doxa en disant, pour moi, une vraie information, c'est qu'elle soit anxiogène et qu'elle fasse peur.
Non, ça prend. Généralement, le journaliste de solution, quand on l'explique bien et qu'on sort un petit peu des critiques qui peuvent exister et qui sont légitimes aussi, ça intéresse beaucoup les étudiants. Et ouais. Ça intéresse aussi les journalistes.
Et ça intéresse les patrons de presse, puisque vous l'avez dit, ce fut la meilleure vente de Libération. En général, un directeur du journal n'oublie jamais ce qui a fait la meilleure vente de l'année. Merci d'avoir été avec nous, Pauline Amiel. Je rappelle le titre de votre livre, Le journalisme de solution. C'est chez Pug, les presses universitaires de Grenoble. Vous êtes œcuménique, vous passez de Marseille à Grenoble. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe.
Merci.
Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. Nous sommes avec le magicien déjanté Éric Antoine pour l'émission Les 25 moments inoubliables de la France. Un incroyable talent, ça passe ce soir sur M6. Il y aura le journal de la culture et puis nous recevrons Jean-Robert Charrier, le plus jeune directeur de théâtre parisien, au moment où aujourd'hui Franck Riester, ministre de la culture, doit faire des annonces pour les théâtres et sur leur déconfinement justement. Nos indispensables, un film récompensé du prix du jury à Cannes à voir sur Arte, s'appelle Faute d'amour, Margot Barallon nous le conseille, et puis Faute d'amour, de la musique avec du rock. Angèle Châtelier ne m'a pas donné son sommaire, en fait elle fêtait son anniversaire.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Nous sommes avec Éric Antoine dans quelques secondes. Puis il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino. Et enfin, le plus jeune directeur de théâtre en France, Jean-Robert Charrier, pour parler de l'avenir des salles et des pièces en France, justement. Nos indispensables, un film génial et du rock bruyant.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Éric Antoine.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes animateur et magicien, ou alors c'est l'inverse, vous êtes magicien et animateur, et vous serez ce soir à l'affiche d'une grande émission en prime time sur M6, les 25 moments incontournables de La France a un incroyable talent. Vous ne serez pas tout seul, il y aura avec vous Hélène Ségara, Marianne James et David Ginola. Humour à la Éric Antoine. Sugar Sammy est décédé.
Non, il n'est pas décédé, c'est juste que, pour dire la vérité, il n'avait pas encore signé son contrat.
C'est vrai.
De toute façon, c'est le dire.
Ah, mais c'est en fait, génial, oui. Parce que dans l'émission que j'ai vue, l'explication officielle est celle-ci.
Maëva et moi, nous sommes à Londres. Et malheureusement, Sugar Sammy ne sera pas parmi nous, il est retenu au Canada.
Mais l'argument ne tient pas, parce que comme vous êtes tous confinés, il peut très bien être au Canada. En tout cas, merci pour votre franchise.
C'est parce qu'au moment du tournage, j'étais pas au courant, je ne comprenais pas pourquoi Samy était pas là. J'étais vraiment, je ne savais pas, et ça m'énervait même. J'ai dit, mais pourquoi on est tous les quatre et pas tous les cinq, quoi.
Donc, c'est drôle. Voilà. Alors,
maintenant, il a signé, tout va bien, on va reprendre la saison avec lui la prochaine.
Cette émission est à la fois un best-of et une émission fraîche. Vous vous retrouvez, mais virtuellement, racontez le principe de l'émission.
On a choisi 25 séquences en présence de 25 artistes qui nous ont le plus marqué ces dernières années dans La France a un incroyable talent. Et on regarde ensemble depuis chez nous et on commente et on raconte et tous les dessous, toutes les coulisses et puis toutes nos émotions, les partages qu'on a eus autour de ces moments et de ces artistes.
Alors l'émission La France, un incroyable talent, je vais le dire, existe depuis 15 ans. J'imagine qu'il n'a pas été difficile de trouver des passages un peu forts parmi les numéros. Mais je sais que vous avez des moments préférés, mais est-ce que vous avez des moments, Éric Antoine, préférés dans les lancements?
Ah oui, moi j'adore la partie de lancement interview. C'est là où souvent les artistes me chopent. Quand quelqu'un est très bon, quand tu lui poses des questions d'où il vient, quel est son âge, pourquoi t'es là, etc., et que tu vois la créativité du gars ou de la nana juste en face, tu te régales. Ouais. Et je me souviens par exemple de Justin, qui est un danseur en fauteuil roulant, et qui faisait des blagues sur son handicap avant de commencer, et j'étais plié. Donc c'est vrai que les lancements, c'est une partie assez délicieuse de cette émission.
Exactement. Alors vous avez refait des présentations avec un style bien à vous, cœur avec les doigts.
Et depuis Aix-en-Provence, et plus précisément Saint-Marc de Jean-Maugarde, Mister Éric Antoine.
Salut mon David, salut Maëva, salut Marianne, salut Hélène. Je vous envoie des cœurs. Non, je vous envoie des petits culs. Voilà. Moi, vous me manquez, j'ai envie de vous faire des câlins.
Des petits culs, ça s'est bien passé le confinement? Vous étiez un peu en manque.
Mais non, mais c'est ridicule ces cœurs. Vous savez, on fait ces cœurs avec les mains.
Mais oui, bien
qu'on
sûr.
Met sur le cœur, et moi je trouve ça ridicule. Alors j'ai inversé le cœur et je me suis rendu compte qu'un cœur inversé, ça ressemble quand même terriblement à
oui, mais c'est bon,
fesses.
C'est bon. On a bien compris. Alors on a vu des séquences plateau. C'est là qu'on vous êtes tous confinés en mosaïque. Mais on a également retrouvé des moments cultes de l'émission. Par exemple, lorsque vous étiez juré et que vous découvriez Jeff Tapir, un candidat improbable qui vient réciter de la poésie.
Bonjour monsieur. Bienvenue.
Bonjour.
Comment vous appelez-vous, monsieur?
Alors, Jeff Tapir.
Jeff Tapir, c'est votre nom de scène ou c'est votre vrai nom?
Non, c'est mon nom de scène.
D'accord, votre vrai nom, c'est quoi?
C'est Jeff.
D'accord.
Je viens présenter un poème. D'accord. D'un spectacle qui s'appelle Le chemin de tes présences perdues.
Je peux me permettre de vous poser une question.
Allez-y.
Est-ce que ça va être chiant?
Non mais faut oser dire ça.
Oui, mais il y a des moments où on a déjà l'intuition. Quand quelqu'un monte sur scène, vous le savez bien.
Ouais.
À force de voir des gens monter sur scène, on sait tout de suite. Et puis,
ah non, mais la question, elle n'est pas là. La question est de balancer à la figure d'un type devant des millions de gens. Est-ce que ça va être chiant? Et est-ce qu'il y a parfois des saillies que vous faites, Éric-Antoine, et qui sont coupées au montage?
Ah oui, énormément, évidemment.
Ah oui.
Mais d'autres, puis je me fais évidemment
insulter
sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, quand des choses qui auraient dû être coupées ou peut-être qui ont bien fait de pas être coupées. Les fans, les pires, c'est les fans de Michael Jackson et de Jésus. Si tu fais une vanne sur Michael Jackson et une vanne sur Jésus, là, c'est très complexe.
Ça, c'est normal, mais entre nous, si vous faites une vanne sur Mahomet, vous allez aussi avoir des nouvelles
pareil.
De Twitter.
Ah, bah, je vais vous dire, toutes les vannes que j'ai faites sur Mahomet, elles sont coupées au montage. Elles n'ont même pas été jusqu'au montage.
Voilà. Alors, parfois, on vous voit, là on vous entend rire à l'instant, Éric-Antoine, on vous voit parfois ému aux larmes. Pour un jeune magicien qui s'appelle Simon, il avait dans les 10-12 ans, dont vous êtes devenu le parrain, vous l'êtes toujours, vous faites toujours équipe?
Je fais toujours équipe avec lui, je l'ai invité dans pas mal d'émissions. Par exemple, Tous les vœux sont permis sur M6 où je réalise les vœux des gens et il est venu m'aider à monter des tours de magie. Je l'ai invité en festival, on a travaillé à Montréal aussi ensemble. Enfin, oui, c'est quelqu'un que je suis. Et puis qui a aussi, je trouve, un truc très fort en lui, c'est qu'il a le côté comédien. Il a un vrai sens de la narration, c'est pas juste un magicien.
Ouais.
Ça, j'ai trouvé ça.
J'ai vu, il est
sympa.
Très drôle. Et je dis pas tout, mais on pense qu'il rate le tour et il le rate. Parfois, vous tentez des trucs dans le lancement. Lorsque vous avez, par exemple, tenté de faire de la beatbox et la batterie avec sa bouche, mais vous avez oublié, vous étiez tranquillement chez vous en train de grignoter.
Alors, en 25e position, ils sont quatre garçons dans le vent. Ils ont la beauté pour eux, ils ont la jeunesse, ils ont le talent, ils ont des organes vocaux magnifiques et surtout ils sont champions du monde de beatbox. D'ailleurs Eric, alors t'as travaillé ton beatbox?
Moi, évidemment, moi, je suis une bombasse de beatbox, quoi. C'est ma vie. Moi, je viens de la street. Moi, je suis
Arrête, tu craches.
On l'a perdu.
Petit conseil, il ne faut jamais manger juste avant de faire du beatbox.
Voilà, mais ça, vous l'avez fait exprès.
Je fais plus ou moins exprès. C'est-à-dire que, en fait, j'aime l'accident. L'accident, c'est quand même le bonheur, c'est quand même la spontanéité. C'est là où on voit qui sont les gens. Donc, je me mets toujours dans des conditions à avoir des accidents. C'est-à-dire que j'essaye toujours de faire un truc en plus. Par exemple, là, je vous parle, mais en même temps, je suis en train d'écrire un mot. j'essaye de me mettre dans des conditions où je vais me perdre. Parce que c'est à chaque fois qu'on est perdu qu'on est créatif.
Alors justement, à propos de vous, j'ai vu l'émission, évidemment, et j'ai été étonné de ne pas vous voir de l'autre côté. Je m'explique. Éric-Antoine, votre carrière a pris un coup de booster. C'était en 2006, quand vous aviez participé en tant que candidat à la France, un incroyable talent. Pourquoi cette séquence n'est-elle pas dans l'émission de ce soir? Je vous le dis, elle n'y est pas. Est-ce que c'est la prod qui ne l'a pas choisie ou c'est vous qui avez refusé de la revoir?
Ni l'une ni l'autre. On n'a pas pensé à mettre ça comme une des séquences les plus importantes de l'émission, quoi. Voilà.
Ah, moi, si j'aurais bien aimé vous voir.
Ouais, c'est vrai,
c'est vrai.
Mais je sais pas, moi, j'y ai pas pensé.
Bon.
Je me suis dit, on est quatre à choisir. On va avoir 6-7 artistes chacun à choisir. Donc, je me suis pas mis dans mon top 7, quoi.
Voilà. D'accord. Mais quelle modestie, Éric-Antoine. Je crois que c'est bien la première fois que vous êtes modeste.
Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie d'Éric-Antoine, animateur et magicien, vous serez ce soir avec d'autres à l'affiche d'une grande émission en prime time sur M6. Les 25 moments incontournables de la France à un incroyable talent. Les autres, ce sont Hélène Ségara, Marianne James et David Ginola, qui n'est pas tout seul et très bien accompagné, vous le verrez. Je vais parler d'actualité avec le confinement. Évidemment, l'émission continue. Il n'y a pas que des best-of, il y a aussi des émissions fraîches. La 15e saison est en route. Est-ce que vous savez si les tournages vont reprendre fin août comme c'était prévu?
Pour le moment, on espère. On est dans des inquiétudes aussi, puisque la France a un incroyable talent. Ce n'est pas que des artistes français. On va aussi chercher des artistes à l'étranger. Donc là, vous savez, il y a des problèmes de voyage.
Ouais.
Et puis, il y a le souci du public. C'est aussi du spectacle vivant. Donc, on a besoin que les gens soient là, respirent. On a besoin de sentir aussi leurs sensations. Alors, il y a des choses qui ont été développées dans des émissions qui sont un peu bizarres pour le moment, mais on va voir. Il y a par exemple des familles qui sont invitées et elles sont toutes dans des petits cubes.
Ah, c'est drôle.
Séparées les unes unes des autres. Ouais. Et donc, ça permet d'avoir un public et d'avoir des gens qui sont déjà confinés ensemble, donc qui sont déjà en contact les uns avec les autres. Donc, on est en train de réfléchir à tout ça et aux solutions pour essayer de tourner comme d'habitude au mois d'août. Ouais.
Et là, on retombe sur votre fascination pour les petits cubes. Juste un mot, les castings de la saison 15 sont en cours, mais malgré la crise du Covid, je m'adresse à ceux qui voudraient participer. Il suffit d'envoyer sa vidéo sur le site incroyabletalent.fr. Autre émission dans laquelle on va voir un spin-off, c'est-à-dire en français une déclinaison de La France, un incroyable talent, ça va s'appeler La bataille du jury. Sont annoncés 4 prime time avec les jurés de l'émission, donc Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy qui a enfin signé son contrat. Ce sera quoi le principe?
Le principe, c'est une espèce de jeu de poker, c'est-à-dire qu'on a tous des cartes, on a chacun choisi une équipe de talents qui sont issus des 15 dernières saisons et un talent de joker qui n'est pas issu d'incroyable talent. Et on fait des duels, c'est-à-dire que l'un abat une carte et l'autre une carte et à chaque fois, à la fin de chacun des duels, il n'en reste qu'un et c'est laquelle des équipes va remporter la grande bataille du jury. Donc, et de nouveau, le gagnant va gagner 100 000 euros. Et...
Puisque vous parlez de 100 000 euros, je reste sur ce chiffre. Autre projet, Lego Masters. La production Endemol Shine, on est au stade du casting pour trouver des binômes de candidats qui vont relever des défis. C'est quoi le genre de défi de Lego Masters?
Alors, pour le moment, je peux pas trop vous en dire parce que l'émission est vraiment un peu secrète. D'ailleurs, j'ai fait la bêtise de laisser fuiter cette information.
Vous auriez pas dû dire que ça allait être vous le présentateur.
Donc, oui, non, mais en fait, je suis tellement ravi parce que je suis fan absolu des Lego depuis ma plus grande enfance. C'est quand même un des jeux les plus créatifs. On a des plans et après tu déconstruis tout et tu crées. Et en plus, c'est participatif.
Éric Antoine, à
plusieurs personnes et tout. Donc,
Éric Antoine,
c'est du jeu.
Ouais. Moi aussi, j'aimais les Lego, mais c'est pas une raison pour me tutoyer. Et donc, ça va être quoi Lego Masters alors?
Donc, Lego Masters, c'est des défis de montage. On a 16 heures pour, par exemple, reconstruire une ville. Et c'est donc des milliers, des millions de pièces qui sont mises à disposition de créateurs en Lego.
Juste
et
un
donc,
petit
c'est,
mot.
Ça va être génial. Quoi, on va.
C'est une collaboration, évidemment, avec la marque Lego. Il y aura un jury composé d'experts de la société Lego. Le public invité à voter à l'aide d'une pièce en Lego. Au moment où le CSA traque la pub clandestine, vous êtes certain que tout ça sera bien légal en France?
Alors ça, c'est pas mon problème.
C'est génial.
Le problème de la chaîne et du groupe.
Ça, j'adore. Ce que vous ne devez pas dire, vous le balancez. Et là, vous devriez savoir, vous ne le savez pas, j'adore Éric Antoine. Qu'est-ce que vous avez comme autre projet télé?
Oui, j'écris de nouvelles émissions. J'aimerais beaucoup faire des émissions autour du monde de l'enfance, évidemment, qui est quand même un des univers que j'affectionne le plus. Et puis, il y a toujours Tous les vœux sont permis, que j'espère refaire.
Ça sera sur M6, tout ça.
La quatrième saison. Ouais. Toujours sur M6. Et puis, peut-être aussi des émissions sur Gulli, comme le groupe M6 a racheté la chaîne Gulli.
Oui, à la Gardère.
Un public, justement, plus jeune. Ouais, exactement.
Vous avez dit, je me sens bien sur M6, car avec Nicolas Taverneau et Thomas Valentin, ce sont les deux boss. Un oui est un oui. C'est pas toujours comme ça ailleurs?
Non, parce que un oui est un oui, un non est un non. C'est-à-dire que tu leur poses la question et tu sais oui ou non.
Ils ailleurs, vous
il vous balade, il vous dit on ne sait pas vraiment qui a le pouvoir. Certains vous font croire qu'ils ont le pouvoir et puis finalement ils ne l'ont pas. Et puis surtout, ce sont des chaises musicales, c'est-à-dire que c'est des directions changeantes, donc très politiques. Et c'est quand même beaucoup plus simple de travailler avec quelqu'un qui, tu sais, être vraiment le boss et pouvoir choisir.
On a bien compris, on salue les gens du service public qui nous écoutent et qu'on aime également beaucoup. J'ai lu que vous étiez en écriture pour votre prochain spectacle avec l'humoriste Jérémy Ferrari, c'est vrai?
C'est tout à fait vrai.
Je vous le demande parce que c'est pas le plus tendre, il est adepte, Jérémy Ferrari, de l'humour noir, pour ne pas dire grinçant. Comment vous allez concilier ça avec votre personnage généreux et empathique?
Je crois que je l'aime déjà beaucoup et c'est une réciprocité, on a une amitié très 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 forte depuis des années. J'ai énormément de respect, je trouve qu'intellectuellement c'est un des types qui se pose les questions, qui va jusqu'au bout ses réflexions.
Je suis totalement d'accord avec vous, mais j'ai l'impression qu'Éric Antoine, Jérémy Ferrari, c'est l'alliance de la carpe et du lapin. Ça va être quoi ce spectacle?
Là, c'est un spectacle sur le thème de l'enfance. Est-ce que l'enfant nous avons été très fiers, heureux, joyeux de passer un moment avec l'adulte que nous sommes devenus? Est-ce qu'on est plus libre ou moins? Est-ce qu'on est des moutons? Est-ce qu'on ne croit pas un peu en tout et en n'importe quoi? Et puis finalement, de trouver cette alliance entre les qualités de l'un et les qualités de l'autre. Et donc, quand je raconte à Jérémy comment marche quelque chose, comment l'illusion fonctionne, comment on se fait arnaquer, lui, ça le renvoie bien sûr à ses colères, à ses passions et de nos deux passions se conjuguent pour une créativité qui me semble assez me correspondre.
À voir donc. Merci beaucoup Eric-Antoine. Je rappelle les 25 moments incontournables de La France, un incroyable talent. C'est le titre le plus long de la Terre, c'est sur M6. C'est ce soir 21h. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Merci de votre accueil et de votre sagacité, cher Philippe Vandel.